Bonsoir. Clôture dimanche dernier à Kinshasa de l'Assemblée générale des évêques d'Afrique et de Madagascar. À l'issue de ces assises, les évêques du Congo ont lancé un appel notamment aux responsables politiques africains afin que soit mis fin à la guerre qui ensanglante la RDC et qu'ils travaillent non pas pour leurs propres intérêts, mais pour le bénéfice de tous. Comment analyser les recommandations issues de ces assises? Pour en parler, nous recevons dans cette émission Thomas Louaka, il est secrétaire général du MLC, parti de l'opposition. Bonsoir, honorable Thomas Louaka.
Bonsoir.
Jonas Tchombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir, Jonas Tchombela.
Bonsoir.
Et au téléphone, nous avons Franklin Tchamala, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, Franklin Tchamala.
Bonsoir, mon frère Guimaté.
Taciturne Ndaora de Bounia, province orientale, ces recommandations ne sont pas les premières ni les dernières, mais c'est la bonne foi qui fait défaut pour les appliquer. Jules de Kinshasa, les évêques ont prêché dans le désert. Ils devraient plutôt appeler à l'église tous leurs fidèles chrétiens qui ont des postes et des responsabilités dans le pays, avoir avec un langage franc sur la gestion du peuple et de la chose publique, conformément à la Bible. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les évêques du Congo lancent un appel pressant aux responsables politiques africains afin que soit mis fin à la guerre qui ensanglante la République démocratique du Congo. C'est l'une des recommandations exprimées en clôture de l'Assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CEAM en sigle, qui a eu lieu ici à Kinshasa du 8 au 14 juillet dernier. Les autres recommandations de ces travaux avec vous, Kelly Nkouté.
Dans leur message final, les évêques invitent en outre tous les habitants du continent à s'engager de manière urgente dans la lutte pour un ordre social juste où tous peuvent jouir des droits liés à leur dignité humaine. Les évêques dénoncent par ailleurs les conflits en cours dans l'est de la RDC, causant des millions de morts, des atrocités, des violences et des viols. Rappelant que la guerre a fait 6 millions de morts en 20 ans et qu'elle déstabilise la RDC en causant des graves violations des droits humains, les évêques invitent l'ensemble des parties impliquées à rechercher solution à cette guerre et à travailler avec acharnement en faveur de la paix, adressant un appel en ce sens aux Nations Unies, à l'Union Européenne et à l'Union Africaine. Les évêques ont convenu de devoir sensibiliser et éduquer les responsables politiques dans leurs pays respectifs afin qu'ils s'engagent au retour d'une paix durable en RDC. Afin de respecter leur engagement en faveur de la justice et de la réconciliation, les évêques du SCA ont adopté un plan stratégique quinquennal pour la période allant de 2013 à 2018 qui prévoit des projets en matière de gouvernance et des formations aux pratiques démocratiques et aux biens communs.
Franklin Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Quelle analyse faites-vous des recommandations issues de l'Assemblée générale des évêques?
Bien, merci beaucoup pour l'invitation, mon frère Guy Maté. Merci à la Radio Capi. Je me dois de dire, à l'instar des auditeurs, qui ont relevé le fait que les évêques ont prêché dans le désert, pour certains et pour d'autres, que ces recommandations ne leur ont pas semblé être les premières ni les dernières, pour ma part. Je voudrais dire que je suis resté sur ma soif, et c'est d'autant plus que j'ai entendu là des choses qui ont déjà été dites sous d'autres cieux. Donc c'était une déclaration ordinaire, une déclaration en ce qui me concerne un peu redondante.
C'est quoi qui a été dit
Dépourvue d'autorité et de force d'interpellation nécessaire. Vous savez, l'Église incarne l'autorité morale sur la société. Et il était en fait aussi dépourvu de la substance que je considère comme étant catalyseur des transformations constructives de nos sociétés.
Franklin Tchamala.
Oui.
Oui. Qu'est-ce que vous dites que vous avez entendu des choses qui sont dépourvues d'autorité et de la substance. Quelles sont ces choses-là?
Bon, lorsque les évêques parlent, notamment de convier les autorités politiques à pouvoir militer pour la mise en place d'un ordre social susceptible de promouvoir un peu plus de dignité aux citoyens, je dis, ça me paraît trop philosophique. Moi, j'attendais ici, de la part de ce symposium, un peu de choses qui vont dans le sens d'amener les acteurs de cette guerre, qui sont connus parce que beaucoup de rapports des Nations Unies les ont même indexés individuellement. Et donc, j'attendais donc que, dans le cadre de ce symposium, les travaux atterrissent sur des choses concrètes qui vont dans le sens de diriger vers ces acteurs, aussi bien les acteurs principaux et leurs sous-traitants, qui sont bien connus, disais-je.
Franklin Tchamada.
Oui.
Prenons la recommandation formulée à l'intention des hommes politiques. Hein. Cette recommandation a deux volets. Le premier est relatif à la guerre dans l'Est de la RDC. Ici, les évêques lancent un appel pressant aux responsables politiques africains afin que soit mis fin à la guerre qui ensanglante la RDC. Et ceci n'est pas concret.
Bon, j'ai dit que ça n'est pas complet du tout parce que l'Afrique, aussi bien s'agissant de ses acteurs politiques, que d'autres composantes qui sont impliquées dans la guerre, l'Afrique vient au second plan. L'Afrique vient au second plan. Les acteurs principaux de cette guerre, ceux qui ont élaboré les plans de cette guerre, ceux qui l'ont planifié, c'est écrit ailleurs. Les rapports des Nations Unies et beaucoup d'autres rapports parlent des acteurs principaux de cette guerre, ceux qui financent cette guerre, ceux qui tirent beaucoup des dividendes de cette guerre. Et donc, ils sont connus. Les Africains, bon, pour ne parler que de ceux qui sont cités les plus souvent, les Ougandais, les Rwandais, qui sont en fait les sous-traitants des grandes multinationales qui sont en fait tapis dans l'ombre ailleurs, et je dis, pour ne parler que des acteurs-là, ils viennent en second plan, ils tirent des bénéfices limités par rapport aux multinationales qui sont bien connues. Les rapports de Nations Unies parlent par exemple de Nokia, cette société, c'est vrai, il n'y a pas encore beaucoup de preuves là-dessus. Mais c'est des multinationales qui sont connues comme étant en ce moment en quête des ressources naturelles rares, mais des ressources naturelles rares qui rentrent dans la fabrication des produits manufacturés qu'ils devaient tout de suite sur le marché africain à des prix exorbitants et qui leur permettent de faire des bénéfices exorbitants pour maintenir leur statut de grande puissance dans le monde. Et donc je dis, je suis resté sur ma soif parce que je me dis qu'il y avait quand même des choses beaucoup plus consistantes à dire et à faire et dans le sens de sensibiliser un peu plus ceux qui sont les plus concernés par cette guerre. Donc les acteurs les plus concernés de cette guerre.
Franklin Tchamada. Donc oui. Vous voulez dire par là que les hommes politiques africains ne détiennent pas la clé quant à la résolution, n'est-ce pas, de la crise qui se vit dans l'Est de la RDC?
Il faut distinguer ces choses-là. Il y a les acteurs promoteurs principaux de cette guerre. Il y a les sous-traitants de cette guerre, au nombre desquels j'ai cité les Rwandais et les Ougandais. Maintenant, il y a les bénéficiaires de cette guerre, parmi lesquels il y a les multinationales qui sont établies ailleurs, vous les connaissez, les ONG qui lèvent des fonds importants dans le monde au motif de faire l'humanitaire, les activités humanitaires ici, et qui dont les activités ne se limitent qu'à distribuer les biscuits aux victimes de cette guerre. Et donc, il y a aussi, à un niveau très limité, les hommes politiques africains, mais aussi les militaires africains, mais à un niveau très limité. Mais il y a, maintenant, le niveau des victimes, les victimes qui sont, elles, essentiellement des Africains. Et donc maintenant, lorsque nous dirigeons une action vers des acteurs des seconds plans, nous attendons quel résultat.
Franklin Tchamada, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Mbujimayi au Kasai Oriental.
J'habite la ville de Mbujimayi dans la province du Kasai Oriental, plus précisément dans la commune de Tioulou. Les dirigeants africains n'ont jamais écouté les hommes de Dieu parce qu'ils ne sont pas au service de leur peuple. C'est pourquoi, malgré toutes les bonnes recommandations des évêques africains et de Madagascar à l'endroit des dirigeants congolais, les dernières, c'est-à-dire les recommandations, ne seront jamais prises en compte. Les dirigeants africains comprennent toujours en retard.
Il dit que les dirigeants africains n'ont jamais écouté, n'est-ce pas, les hommes de Dieu.
Bon, il faut bien comprendre la nature de la guerre qui est menée, en fait, en Afrique et principalement dans notre pays. La guerre qui est menée dans notre pays, c'est une guerre aux contours divers. Mais c'est une guerre essentiellement qui est politique et économique. Une guerre politique et économique qui a été planifiée par des gens bien connus et qui est exécutée par des gens qui sont bien connus, qui permet aux gens bien connus de tirer bénéfice et qui fait des victimes quelque part. Merci. Ça, c'est connu. Et donc, cette guerre-là, économique et politique, c'est une guerre qui rentre dans l'ordre de choses.
Merci.
Dans l'ordre de choses tel que voulu par l'ordre économique et politique mondial.
Merci.
Qui veut que les Africains soient toujours des pourvoyeurs.
On a compris. Merci Thomas Louaka. Vous êtes secrétaire général du MLC, parti de l'opposition. Vous venez de suivre Franklin Tchamala, qui est communicateur de la majorité présidentielle, qui s'étonne du fait que les évêques demandent aux dirigeants africains de pouvoir mettre fin à la crise qui sévit dans l'est de la RDC, alors que, selon lui, les dirigeants africains ne sont que des acteurs secondaires.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis pas vraiment surpris de cette prise de position d'un haut cadre de la majorité parce que, comme vous le savez, la majorité présidentielle a toujours eu cette tendance à fuir des responsabilités. Je vous donne des exemples concrets. Par rapport à la situation de l'Est, pour la majorité, dans un premier temps, vous vous souvenez très bien, c'était à la MONUSCO de résoudre. De faire la paix à l'Est. C'était à la MONUSCO, lorsque Goma est tombé, et tous les acteurs étaient très remontés contre la MONUSCO, alors que la responsabilité première d'assurer la sécurité de nos populations incombe à notre gouvernement. La MONUSCO est là pour l'assister. Maintenant, on voit le même raisonnement. Les évêques, il faut qu'on remette les choses à l'endroit. Qu'est-ce que l'Église catholique, pour nous les croyants? L'Église catholique, c'est comme une boussole. La boussole nous indique le nord. La boussole ne nous dit pas où il faut aller. On nous dit, voici le nord. Il dépend maintenant à chacun, d'après ses convictions, d'après ses croyances, de choisir d'aller au nord, au sud, à l'est ou je ne sais pas, à l'ouest. C'est ce que l'Église vient de faire. On nous dit, qu'est-ce que l'Église nous dit? L'Église nous dit tout simplement ceci, attention. Il y a l'égoïsme des acteurs qui fait qu'il y a la misère en Afrique. Des acteurs politiques, l'égoïsme. Dans la répartition des richesses, la population ne se retrouve pas, il y a seulement une minorité qui se retrouve. Deuxième chose que les évêques nous disent, ils nous disent, la guerre à l'Est, c'est quoi? C'est l'exploitation des ressources minières qui est la cause de cela. Et troisièmement, on nous dit, justement pour chercher la justice et la paix, on nous interpelle, il dit faites correctement votre travail. Le travail d'un politicien, normalement, d'après la conception de l'Église catholique, ça doit être un sacerdoce, c'est-à-dire des gens qui sont au service de la communauté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on voit des acteurs politiques se servir et se servir abondamment. Donc voilà tout simplement ce que l'Église catholique nous interpelle. Et là, je vois les communicateurs de l'AMP, monsieur Tchamala, partir dans une grande dissertation sur le fait que l'Église n'a pas joué son rôle. Ce n'est pas là le rôle de l'Église d'aller pacifier l'Est. C'est au gouvernement. Il faut reconnaître que nous, les gouvernements congolais, nous avons échoué. Maintenant, aujourd'hui, on nous interpelle. Il y a un autre élément que notre camarade a dit, mon frère et mon compatriote.
Mais il faut aussi reconnaître que l'appel n'est pas lancé seulement à ceux qui sont en train de gérer. Hein. C'est à tous
les hommes politiques. L'appel est lancé à tous les hommes politiques. Mais chacun... je suis tout à fait d'accord. Je me sens interpellé. C'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation. Parce que je suis interpellé comme acteur politique. Mais je n'ai pas la même responsabilité que celui qui est au gouvernement. Vous savez très bien que mes moyens d'agir sont limités par rapport aux gens qui sont au pouvoir. Parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Donc je reconnais tout à fait. Et M. Tchamala a dit autre chose. Il dit oui, c'est du déjà entendu. Ben, ce n'est pas parce qu'une chose nous a été dit il y a 10 ans qu'il ne faut pas le dire. Tu ne tueras point. Ça a été dit il y a combien de siècles? Mais on continue à le dire parce que c'est le ciment de la société. Si vous voulez avoir la paix, il ne faut pas tuer. Donc, je pense que c'est une très bonne déclaration. Cette interpellation, il appartient maintenant à chacun de pouvoir l'interpréter d'après ses propres convictions.
Oui, honorable Thomas Louaka, l'autre préoccupation exprimée par les évêques, c'est l'attitude de l'homme politique africain en général. Pourquoi cet homme a tendance à privilégier ses propres intérêts au détriment de l'intérêt collectif?
En fait, c'est Souvent, nous, les politiciens congolais, nous sommes dans la culture de la jouissance immédiate, immédiate et non pas en moyen long terme. On fait des petits calculs. Et deuxième chose, souvent aussi, on retrouve parmi ce qu'on appelle les politiciens, des gens qui n'ont aucune vocation à faire de la politique. Ils sont venus dans la politique comme dans un business. Je vous donne un exemple au Congo. Les activités économiques tournent tellement au ralenti que vous allez trouver même des hommes d'affaires qui n'ont plus de débouchés dans les affaires. Ils viennent en politique où ils pratiquent la politique comme un business. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'Assemblée nationale. Vous proposez un salaire aux députés qui sont dans la salle en disant « Restez chez vous, on vous garantit votre salaire qui vous suivra chez vous ». Je vous dis, beaucoup de gens qu'on appelle politiciens aujourd'hui s'ennuient à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas leur vocation de faire de la politique. Il faut avoir cette vocation-là. La politique doit être un sacerdoce. Maintenant, ce qui se passe, si l'État pouvait permettre aux gens de s'épanouir dans les activités privées, vous allez voir que beaucoup de gens qui font de la politique aujourd'hui deviendront des hommes d'affaires, deviendront des commerçants. On a vu ces phénomènes en Afrique du Sud. Lorsque l'ANC accède au pouvoir, l'élite de l'ANC a été divisée en deux camps. Il y a les politiciens, les gens qui vraiment ont une vocation politique, les Thabo Mbeki, les Mandela et les autres ont fait de la politique, et un nombre très important des cadres de l'ANC qui ont beaucoup milité se sont retrouvés dans les affaires.
Il y a d'un côté cette vocation, n'est-ce pas, qui est importante.
Exactement.
Mais aussi de l'autre, il y a aussi les principes, n'est-ce pas, auxquels tout le monde doit se conformer.
Oui, mais justement, les problèmes qui se posent maintenant dans notre pays, les règles qui doivent être respectés, ne les sont pas. Il y a le règne de l'impunité. Ça, je ne suis pas le premier à les dénoncer. L'impunité permet justement aux gens de ne pas respecter les règles du jeu. Les lois congolaises disent ce qui doit être fait. Celui qui détourne l'argent, les deniers publics, doit être arrêté, jugé, mis en prison. Mais ce n'est pas pratiqué actuellement.
Honorable, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia, en province orientale.
Petio, Kambal et Kamakia de Bounia, province orientale. Les antivaleurs qui sont courants dans le pays prouvent grandement comment nos politiciens ne craignent pas Dieu, que les dirigeants ecclésiastiques identifient les enseignements des vraies valeurs.
Les valeurs font défaut dans la société congolaise.
Oui, les valeurs font défaut, la crainte de Dieu fait défaut, mais moi comme acteur politique, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à un État laïque, on ne va pas mettre de l'ordre dans la société en disant que Dieu va vous sanctionner. Ça, c'est un autre domaine, le domaine spirituel. Il faudrait que les gens aient conscience, qu'un ministre ait conscience. Si je détourne l'argent de l'État, je n'entends pas une sanction divine. Mais les juridictions publiques de l'État vont se saisir de mon cas. Si les gens ont conscience que maintenant la justice commence à s'appliquer dans notre pays, les gens vont marcher droit. Qu'ils croient ou ne croient pas en Dieu, ils seront dans le droit chemin.
Jonas Tchoumbela, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Lorsque vous lisez les différentes recommandations issues de ces assises, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une interpellation à l'endroit aussi bien des politiques que des populations en Afrique. Et pourquoi? C'est parce que les évêques estiment que par rapport aux maux qui rongent l'Afrique, les responsabilités sont partagées entre gouvernants et gouvernés?
Oui, les évêques ont raison, comme vous le dites, mon frère Guy. C'est un rappel à l'ordre, parce que on est là pour une mission, on ne gère pas le pays pour le plaisir de le gérer, c'est pour répondre aux besoins, c'est pour répondre aux problèmes qui occupent la population, c'est une responsabilité. Donc les évêques, dans leurs déclarations, c'est un rappel à l'ordre. Ils le font de façon presque douce, mais c'est leur langage, mais ça devait interpeller l'homme qui dirige. L'homme qui dirige, c'est lui l'acteur principal. Entendre les positions de la classe politique, tout en as comme on dit, j'ai commencé même à me poser des questions. Est-ce que en Afrique, réellement, nous avons des présidents ou nous avons des gouverneurs? Parce que les gens semblent fuir leurs responsabilités quand on nous rappelle à l'ordre. Et les évêques sont inquiets sur l'avenir de l'Afrique. Il y a un problème. Ce n'est pas eux qui vont agir pour que la guerre s'arrête, mais ils sont des acteurs dans la société qui interpellent ceux qui dirigent et ceux qui sont à la base de la guerre.
Mais vous avez suivi, M. François Tiamala, il est communicateur de la majorité qui pense que les évêques se sont trompés, n'est-ce pas, des cibles. Ils ne devaient pas demander aux hommes politiques africains de pouvoir mettre fin à cette guerre qui sévit dans l'est de la RDC, parce que eux, ce sont des acteurs secondaires. Les acteurs principaux sont connus.
Oui, est-ce que ce soit les acteurs... Mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je me commence à me poser la question, est-ce que l'Afrique est réellement, je parle le vrai président de l'Afrique, ou pas de gouverneur, de ceux, ou bien c'est de faux présidents et que le vrai sont ailleurs? Parce que là, c'est une façon d'avouer cela. Et une autre façon aussi de ne pas engager sa responsabilité.
À votre avis, est-ce que les dirigeants africains ont aujourd'hui la possibilité, n'est-ce pas, de mettre fin à cette crise dans l'est de la RDC?
Oui, mais la crise qui secoue notre pays, une partie que M. Franklin a dit, les acteurs de cette crise sont connus, bien identifiés. Même si les évêques pouvaient les citer, ça ne pouvait rien faire. Il y a une volonté politique qui doit être utilisée quelque part. Nous avons vu, ils sont à l'intérieur de notre pays, comme ils sont en dehors de nos frontières. Ils sont dans les multinationales. À l'intérieur de notre pays, nous avons vu qu'il y avait des généraux qui vendaient des armes. Et ça aussi, c'est les évêques qui...
Il y en a qui ont été sanctionnés.
Il y en a qui n'ont pas été sanctionnés, qui circulent jusqu'à ce jour. Vous voyez ça? C'est un problème de la lutte contre l'impunité, comme l'a dit l'honorable Louaka tout à l'heure. Donc, il y a un problème dans notre société. La guerre qui secoue notre pays, les acteurs sont connus. Je crois que le compatriote Franklin l'a dit. Il a cité l'Ouganda, il a cité le Rwanda, même le Burundi. Et la RDC elle-même aussi, elle a une responsabilité. Il ne faut pas que nous puissions regarder ailleurs. Chez nous aussi, à l'intérieur, il y a un problème. C'est le problème qui crée des malaises. Pourquoi il y a toujours cette problématique des groupes armés dans notre pays tout le temps? C'est une question, parce que ce qui relève de notre responsabilité intérieure, nous n'avons pas bien amené sur les réformes que nous avons recherchées sur le plan sécuritaire, les réformes de l'armée. Nous n'arrivons pas à faire des polices là. Parce qu'il y a un problème sur le plan intérieur. Donc, il y a une responsabilité interne, externe. À ce moment-là, il faudra que nous puissions nous regarder en face. Je crois que c'est dans cette question qu'on pousse vers la question des concertations pour regarder la crise réellement dans les bons sens.
Voilà, par rapport aux concertations, il y a un débat, n'est-ce pas, à ce sujet. Les uns convoquent ces concertations, les autres disent non, vous n'êtes pas qualité à pouvoir convoquer ces concertations. Et déjà, ça pose un problème. Alors que l'objectif, n'est-ce pas, c'est de pouvoir trouver une solution à la question de la guerre de l'Est.
Il ne faut pas qu'on ait une politique de se faire peur pour rien. Je n'ai pas vu dans la volonté de la majorité présidentielle une volonté de ne pas aller aux concertations. Je n'ai pas vu même dans la volonté de notre opposition une volonté de ne pas aller aux discussions nationales.
Mais il y a seulement un problème. À partir du moment où il y a une unanimité sur le fait que les gens doivent se mettre autour d'une table, n'est-ce pas,
voilà,
pour trouver une solution à ces problèmes-là. Et que, bon, le chef de l'État convoque les concertations nationales, l'opposition dit, nous, on n'est pas d'accord avec les concertations nationales, on est plutôt d'accord avec le dialogue national. Et déjà, ça ne pose pas un problème. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un blocage? Parce que là, les débats, c'est au niveau, n'est-ce pas, des terminologies, au niveau des termes, au niveau des concepts.
Non, Guy, ne vous en faites pas. Il ne faut pas qu'on se fasse faire comme je le disais. Il est normal, nous sommes dans un espace de liberté, de démocratie et d'orientation. On ne doit pas interdire à l'opposition de réfléchir, de mettre un point de vue, comme on ne doit pas interdire aussi à la majorité. Donc nous sommes dans un espace de la démocratie où, quand on va en concertation, chacun peut amener tout ce qu'il a comme arme. Ce qui compte, c'est le consensus.
Monsieur Jonas Kimbera, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Dixon Kabange de Lubumbashi au Katanga, les effets commencent à oublier leur mission qui est de sauver les âmes en prenant des positions politiques et qui commencent à les décrédibiliser. Les évêques doivent rentrer dans leur diocèse respectif pour annoncer la bonne nouvelle, car la Bible déclare qu'il faut rendre à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Les évêques s'écartent de leur mission sacerdotale à partir du moment où ils commencent à prendre position par rapport aux questions politiques. Vous êtes de cet avis?
Oui, mais je crois que je ne partage pas son avis du fait que, par exemple, quand on vous dit « ne tuez point », on dit de mettre fin à la guerre. Ça, c'est faire de la politique. Vous avez vu un seul évêque qui s'est présenté comme candidat président de la République? comme candidat président d'un parti politique, lorsque les évêques nous rappellent à l'ordre, ils nous disent qu'il faut un nouvel ordre social, juste. Mais ce sont des valeurs qui devaient être prônées par ce que j'ai. Et ils nous rappellent à l'ordre. Ce n'est pas une façon de s'immiscer dans la politique. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend s'immiscer dans la politique? S'immiscer dans la politique, c'est faire de la politique comme le fait les partis politiques qui ont la mission de conquérir ou de conserver le pouvoir. Mais les évêques sont en train de dire, mais dirigez-nous. Quand les évêques disent qu'il faut cesser avec l'égoïsme, qu'il faut cesser avec l'accumulation des richesses, mais ça veut dire quoi? Nous avons des valeurs que nous devons partager ensemble. Nous partageons aussi les richesses. On ne peut pas partager la misère, on doit partager les richesses. Donc les évêques sont en train de nous ramener sur le chemin juste. Donc ce n'est pas faire de la politique quand on nous rappelle à l'ordre. Sinon, faire de la politique, c'est autre chose.
Franck Etchemala, lorsque vous avez dit que les évêques ne devaient pas s'adresser aux dirigeants africains parce que ces dirigeants sont des acteurs secondaires et qu'ils devaient plutôt s'adresser aux dirigeants, en fait aux acteurs principaux, vous avez suivi la réaction de l'honorable Thomas Luaka qui analyse vos propos comme étant, n'est-ce pas, une façon de vouloir fuir vos responsabilités, vous, de la majorité présidentielle.
Non, 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 je ne veux pas tomber dans les pièges d'une polémique quelconque dans laquelle l'honorable Luaka veut m'engager. J'ai simplement ici considéré que face à la situation de guerre que notre pays connaît, il était important pour l'Église, qui s'est sentie la vocation de pouvoir travailler dans la construction de la paix, il était important de pouvoir travailler sur la cause principale de cette guerre, cause qui est incarnée en ce moment par les acteurs principaux de cette guerre politique et économique. Une guerre destinée à garder une certaine influence dans une région qui est nantie des ressources importantes, et donc pour avoir les moyens d'y accéder un peu plus facilement. Et donc c'est ça ma vision des choses. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait une responsabilité, mais au second plan, incarnée par nous-mêmes et par d'autres au niveau de l'Afrique. Et donc je dis, principalement, il est important de travailler sur le principal, parce que dès que le principal est en fait catapulté, les secondaires tombent. C'est ça la logique même des choses. Bon maintenant, est-ce que nous avons dit qu'il est de la responsabilité des évêques, des gouverneurs du Congo et tout? C'est pas ce que nous avons dit. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Et donc, mon propos, celui-là, j'ai tenu à le repréciser pour que nous ayons le même entendement de la problématique qui nous est posée.
Oui, Franklin Chamala, parlons aussi de l'autre recommandation sur les nouvelles ordres. En fait, dans leur message final, les évêques invitent également tous les habitants du continent à s'engager de manière urgente dans la lutte pour un ordre social juste où tous peuvent jouir des droits liés à leur dignité humaine. Les habitants du continent doivent bouleverser l'ordre social existant au profit des nouvelles ordres que les évêques qualifient de justes.
Oui, je voudrais avec vous revenir sur mon propos. J'ai senti que la déclaration elle-même, elle était dépourvue de la substance qui est susceptible de nous engager dans les voies transformatrices d'une manière constructive de nos sociétés. Probablement parce que l'Église est en train de perdre l'autorité morale sur la société. Parce que l'Église elle-même, elle s'est beaucoup compromise. Notez que les scandales des blanchissements d'argent sont en train d'être de voir jour dans l'Église. Les papes actuels sont en train de nettoyer un peu les écuries d'OGIA. Parce qu'en fait, les responsables principaux qui gèrent l'Église au Vatican ont été pris ici dans des trucs liés au blanchissement d'argent et là, et dans des choses qui ne rentrent pas dans l'ordre moral des choses. Bon, maintenant, s'agissant de l'ordre social pour lequel l'Église voudrait que les citoyens africains s'engagent. Mais l'ordre social juste est tributaire d'un ordre économique et politique juste. Je vous ai dit que dans l'ordre des choses aujourd'hui, et donc le Nord voit l'Afrique comme étant simplement un marché. Simplement un marché. Un marché où l'on doit aller chercher les ressources ou les matières premières à bas prix pour alimenter les industries occidentales qui, elles, ont vocation de produire les produits manufacturés au prix élevé afin de pouvoir les déverser de nouveau sur les marchés africains ou
On a fait en sorte que les marchés, en fait, l'Afrique ne soit que un marché de consommation. C'est ça l'ordre, l'ordre économique, l'ordre politique qui est là, qui a été établi, et dans lequel on voudrait nous confiner et nous astreindre. C'est ça l'ordre qui est à la base de la pauvreté dans nos pays, qui est à la base de toutes les criminalités que nous déplorons et tout. Nous devons, plutôt que de nous donner l'illusion de pouvoir militer pour un monde social, commencer par nous battre pour changer cet état des choses, en amont, en amont. C'est ça. Et donc, mon propos, celui-là, je suis en train de regarder les choses à cette hauteur-là. Ceux qui veulent astreindre l'Afrique dans le rôle de petits pauvres, vers lesquels on va, on fait des guerres, on prend ce qu'ils ont, on va, on les transforme, on revient pour les leur vendre à des prix exorbitants, pour les enliver dans des dettes injustifiées, sont connus.
Merci, honorable Thomas Louaka. Cet appel des évêques qui consiste à demander aux populations, aux habitants africains de pouvoir s'engager dans la lutte pour un nouvel ordre social qu'il qualifie de juste, est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter comme une incitation à la révolte?
Non, ce n'est pas une incitation à la révolte. C'est plutôt un chemin pour aller vers la paix. Parce que aujourd'hui, quelle est la situation de l'Afrique? C'est des pandémies, c'est la famine, c'est des guerres, c'est toutes les crises possibles et qui est en train de vivre notre continent. Donc, on ne peut pas dire que cet ordre social actuel convient à la majorité des Africains. Donc, les évêques demandent tout simplement, il faut changer cet ordre social pour aller vers un ordre social juste. Et là, ça me rappelle une pensée du pape Pie XII qui disait ceci: la paix est le fruit de la justice. Si au Congo nous voulons réellement avoir la paix, il faut commencer par la justice sociale, la justice économique, la justice sécuritaire où les gens peuvent se promener en calmement en rentrant chez eux, pas rencontrer des Kuluna à partir d'un tel moment ou aller là-bas. Donc c'est la justice qui amènera la paix dans ces pays. Peut-être un autre élément par rapport à l'intervention de notre ami, je n'ai pas de volonté délibérée de vouloir polémiquer avec mon compatriote Tchamala, j'ai juste relevé quelques remarques sur ce qu'il avait dit. Et là, il parle de la cause principale de la guerre à l'Est. Quelle est la cause principale? Si on ne fait pas un bon diagnostic, un bon médecin, c'est celui qui fait un bon diagnostic et puis il donne la médication nécessaire. Tant que les amis de la...
Il parle de l'exploitation des richesses.
L'exploitation des richesses. Mais cela est causé par quoi? Par la défaillance de l'État. La déliquescence de l'État. C'est ça la cause principale. Prenez un exemple, vous voyez des jeunes Belges, 10, 20, parce qu'ils sont mécontents de leur gouvernement, ils disent on devient maï-maï, à Anvers, ou à Liège, ou des jeunes Français, ou aux États-Unis. Il y a quand même des mécontents aux États-Unis. On a vu là les Noirs qui sont mécontents parce que quelqu'un a été acquitté avant-hier. Mais personne ne deviendra maï-maï là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un État fort. Il y a l'armée qui est là, il y a la police qui est là. Vous allez dans un coin, une brousse aux États-Unis, vous ne ferez pas une semaine, l'État va s'occuper de vous. Maintenant, chez nous, pourquoi ces phénomènes pullulent? On nous parle de plus de 100 groupes armés à l'Est. Parce que l'État, aujourd'hui, est dans l'incapacité d'assurer la sécurité de la population. C'est juste une parenthèse que je voulais offrir là-dessus. Donc, il appartient à nous, Congolais, de réhabiliter l'État congolais. Et peut-être un dernier élément par rapport aux concertations, vous avez dit tout à l'heure, il faut des concertations. Les évêques en parlent aussi. Ils en ont parlé en disant ceci, en disant que les dialogues doivent se faire dans la vérité, le respect et la justice. Donc voilà ce qu'ils recommandent en ce qui concerne les dialogues. Nous tous, de l'opposition comme de la majorité, si nous sommes de bonne foi, nous devons aller au dialogue dans la vérité.
Par concertation.
Non, c'est une guerre des concepts qui ne nous concerne pas. Dialogue ou concertation, pour nous, le plus important, quel sera l'ordre du jour.
Donc c'est un faux débat.
Tout à fait.
Nous allons lire quelques réactions. Pepe Lusungi Botomoito de Kisangani, province orientale. Croyez-vous que les recommandations de ces hommes de Dieu aura une suite favorable aux politiciens qui ont seulement peur des gens qui prennent les armes et non des hommes de Dieu? Il y a Taciturne Ndaora de Bunia, province orientale. Ces recommandations ne sont pas les premières ni les dernières, mais c'est la bonne foi qui manque pour les appliquer. Guillaume le Bretbert de Magui, en province orientale. Les évêques ont maintes fois dénoncé ce qui se passe dans l'est de la RDC, mais que font-ils exactement pour changer les choses? Jonas Tchombela, à votre avis, quel est le mérite, n'est-ce pas, des recommandations des évêques?
Mais c'est leur mission. Ils ne sont pas en dehors de leur mission. Les évêques sont en train d'interpeller l'opinion, d'interpeller le dirigeant, d'interpeller même la population elle-même. Parce qu'elle a aussi une part de responsabilité. Elle qui vit impuissamment des injustices au lieu d'agir. Les évêques sont en train d'interpeller tout le monde.
Et donc, vous pensez que les évêques ont cette capacité, n'est-ce pas, d'influer sur les décisions des hommes politiques?
Ils ont cette capacité parce que vous savez que les évêques, ces hommes politiques, c'est d'abord des chrétiens ou des musulmans dans tout le cas. Ils sont d'abord avec eux. Ils se confient à ces évêques dans les détails que nous ne pouvons pas dire ici. Donc il y a moyen d'influer sur ces hommes politiques. Ils viennent dans ces mêmes églises. Ils écoutent ces mêmes pasteurs. Donc il y a moyen d'influer s'il y a la volonté d'écouter et de bien faire. Voyez ça. Donc, nous ne pouvons pas dire que parce qu'ils l'ont répété, ou parce que c'est une énième fois qu'ils vont dire, le bien, on doit le répéter même 10 000 fois. Parce que c'est un bien. Voyez ça. Donc, on ne peut pas reculer devant un bien. Peut-être que ce que nous pouvons faire, c'est reculer devant le mal. Et les évêques sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Quand on observe l'Afrique, tout bouillonne. Vous allez en Égypte, Tunisie, Mali, RDC, partout. Pas plus tard qu'hier, on a encore tué des Congolais. Donc, ce serait peut-être non-assistance une personne en danger si les évêques ne pouvaient pas parler.
Mais vous pensez que le simple fait de déclaration peut avoir un impact, n'est-ce pas, sur la situation sur le terrain?
Mais ils ne prendront jamais les armes. C'est ça l'arme des évêques. C'est la parole qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autres armes. Voyez ça. Et il y a un compatriote qui parle que les hommes politiques n'écoutent que ceux qui prennent les armes. Après, ils ne les écoutent même pas. Ils se font seulement la guerre, comme l'a dit le compatriote Franklin tout à l'heure. Le business. Parce que la mort des Congolais, c'est un business.
Cela veut dire qu'ils auront même du mal à écouter ces évêques?
Non. Les évêques, ils sont là pour cela. Dire la vérité. Rien que la vérité. Ils sont en train d'interpeller l'Afrique. Il faut un nouvel ordre juste. Un nouvel ordre social juste. Cet ordre ne viendra pas parce qu'on a pris les armes. Il vient au bout des discussions. Il vient au bout du dialogue. Et il nous engage sur un chemin pacifique. Parce que c'est des hommes pacifiques. Donc, on ne peut pas aller dire que parce que dans la globalité, dans l'ensemble, il y a des hommes à l'église qui ont semé des scandales pour dire que c'est l'ensemble de l'église qui a eu des scandales. Non, ce n'est pas cela. Le message lui-même, est-ce qu'il pose des scandales? Est-ce que vous avez vu un évêque qui est en train de fauter ces scandales sur la place publique? Non. Et même quand il y a scandale à l'église, l'église s'organise pour corriger. C'est comme ça qu'il y a un pape qui est en train de mettre de l'ordre. Et nous, les politiques, la classe politique, nous qui dirigeons, qu'est-ce que nous faisons pour que ça marche bien? Et la population nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays puisse bien marcher? Donc, les évêques ont tout intérêt de nous interpeller et chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire.
Est-ce que ces évêques pourraient avoir aussi le courage, lorsqu'ils se retrouvent avec ces hommes politiques, ces décideurs, n'est-ce pas, en aparté, de pouvoir leur dire la vérité?
Mais c'est ces hommes politiques qui viennent confesser auprès de j'ai tué. Vous estimez qu'à celui qui vous a dit que j'ai tué, ou que j'ai fait ceci, ou que j'ai détourné, on ne peut pas lui dire que de ne plus faire ça? Je crois au courage des évêques.
Franck Kamala, pour que les recommandations de ces évêques ne restent pas lettres mortes, que faut-il faire à votre avis?
Je pense qu'il faut beaucoup de volontarisme et beaucoup d'engagement pour la vérité. Parce que je ne suis pas convaincu que les évêques du Rwanda regardent Kagame sous les mêmes lunettes que Mosengo et les autres évêques du Congo. Rassurez-vous, les évêques du Rwanda ne voient pas en Kagame un criminel. Tout autant que Mosengo et les autres évêques du Congo
n'est-ce pas un procès d'intention? Alors, que vous faites à l'endroit des évêques du Rwanda?
Pardon?
N'est-ce pas là un procès d'intention que vous faites à l'endroit des
évêques? Ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Je n'ai pas entendu ou je n'ai pas vu quelque part l'église du Rwanda, à travers ses évêques, mener une action allant dans le sens d'amener les autorités politiques du Rwanda dans une certaine conversion des choses, dans le sens que nous attendons. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça.
Qui vous dit qu'il
alors, lorsque globalement, on dit, on prêche les dirigeants africains, lesquels sont prêchés? Ils sont prêchés par qui? Ça, c'est ma préoccupation la plus principale. Je dis donc, il faut beaucoup, en fait, de volontarisme. Beaucoup de volontarisme et beaucoup d'engagement pour la vérité. Une vérité stricte, parce que, comme je l'ai dit au commencement, cette guerre-là, elle se cantonne dans la partie utile de notre pays. La partie qui regorge, le pétrole, l'or, la cassitérite, le coltan, le gaz méthane, donc des ressources rares. Des ressources rares qui sont convoitées en ce moment par l'Occident. Et dans l'ordre des choses, les Rwandais ont une mission, les Ougandais ont une mission, les Occidentaux ont une mission à différents niveaux. Leurs multinationales ont des missions, les ONG qui sont par milliers à l'est de notre pays, par milliers des ONG.
Merci.
Qui se sont versés dans l'humanitaire, ont aussi des missions. Regardez ces ONG, elles lèvent beaucoup de fonds à l'Occident, beaucoup de fonds, pour venir ici distribuer des biscuits au peuple congolais,
merci,
de notre pays.
Merci.
Et donc je dis,
merci.
Ça c'est vrai, mais quand on parle des groupes armés, on connaît qui en sont promoteurs.
Merci, on a compris, honorable Thomas Luaka, que faut-il faire pour que ces recommandations des évêques ne puissent pas rester lettres mortes? Vous avez suivi Franklin Tchamala qui pense qu'il faut beaucoup de volontarisme.
En fait, les évêques nous interpellent comme acteurs politiques, mais il faut reconnaître quand même un petit point faible sur l'impact de la déclaration. Les petits points faibles de l'Église catholique en Afrique, c'est quoi? Surtout au Congo, beaucoup de dirigeants, des acteurs politiques qui se disent chrétiens, en réalité, ne sont que des chrétiens du dimanche. Pendant la semaine, pas seulement les acteurs politiques, on a vu même beaucoup de nos compatriotes, pendant la semaine, ils se comportent comme des païens. Et les dimanches, bon, ils deviennent des chrétiens et c'est cyclique, comme ça, un peu comme une schizophrénie. Vous savez, la schizophrénie, c'est une folie. Quelqu'un, un jour, il se prend pour le président de la République, le lendemain, il est pousse-pousseur. On voit ce cas-là au CNPP. Donc, cette schizophrénie-là, parfois, on a l'impression que nous, certains acteurs politiques ou les chrétiens, nous vivons cette schizophrénie où on est chrétien que les dimanches et pendant la semaine, on a un comportement des païens. Donc, je pense que ça, c'est les points faibles. Et les évêques se sont rendus compte de ces points faibles puisque parmi les recommandations, les résolutions, ils se sont résolus, ils ont pris une résolution d'accentuer la conversion. C'est-à-dire continuer à faire encore un peu plus, fabriquer un peu plus de chrétiens, de vrais chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour des autres et puis qui aiment la paix et la justice.
Voilà, nous sommes à la fin de la mission. Votre conclusion?
Ma conclusion est que cette déclaration, c'est une bonne interpellation pour les hommes de bonne foi, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou athées.
Jean Sombella, votre conclusion?
Oui, je pense que les évêques sont en train de nous interpeller les dirigeants, particulièrement les dirigeants congolais, de prendre les responsabilités à main, parce que le Congo a besoin de la paix et de la cohésion nationale. Donc, cette interpellation doit être prise au sérieux, même si c'est la énième, c'est une interpellation, parce que là, nous sommes devant nos responsabilités, devant l'histoire. L'histoire nous jugera aussi.
Franklin Tchamala, votre conclusion?
Oui, encore une fois, merci pour m'avoir invité à ce débat qui m'a assez enrichi. Cette guerre-là, la guerre que connaît notre pays, c'est une guerre politique et une guerre économique. Une guerre destinée à permettre à certaines puissances bien connues, à certaines entreprises bien connues, à garder leur influence sur notre pays pour continuer à les piller tel qu'on les pille. Et donc, il est important que, comme les évêques l'ont demandé, qu'avec beaucoup de volontarisme, beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement pour la vérité, les hommes s'engagent dans la voie de la paix.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzango était à la technique, Kéline Kouté à la réalisation, assistée de Samuel Kachat, sous la supervision de Julien Nyamouigny, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon suivi des programmes sur Radio Capi.